qui en veut à Nicolas Maduro depuis samedi dernier et l'explosion d'un drone en pleine parade militaire à Caracas. Le président vénézuélien paraît remuer ciel et terre pour trouver les responsables. Cette nuit, la Cour suprême a ordonné l'arrestation de l'ancien président du Parlement en exil en Colombie et un jeune député d'opposition a été kidnappé d'après sa famille qui ne sait pas où il se trouve. Bonjour François-Xavier Frelan.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant, vous êtes l'ancien correspondant de France 24 et de RFI à Caracas jusqu'en 2012. Merci d'être avec nous ce matin. Vous les avez déjà rencontrés, ces chefs d'opposition ou ces parlementaires dont on parle là depuis cette nuit, dont la Cour suprême a commandé l'arrestation?
Ah oui, oui, je les ai tous rencontrés. Je travaille actuellement sur un documentaire autour des exilés et des réfugiés. Je connais bien M. Julio Borges, qui est un monsieur social-démocrate, qui appartient à un parti, Primero Justicia, qui est un parti qui se dit de centre-gauche. C'est un monsieur très courtois, très très tranquille, serein, ça n'a rien d'un terroriste. Il est vraiment un homme de dialogue. D'ailleurs, il a été un des rares, on lui a reproché dans l'opposition, à avoir accepté la main tendue, entre guillemets, de M. Maduro, durant l'année 2017, quand il y a eu, via la médiation du Vatican, une espèce de volonté de rapprochement entre l'exécutif et l'opposition. Et c'est l'un des rares à avoir accepté de discuter. On lui a beaucoup reproché au sein de l'opposition, on l'a considéré comme un traître. Donc c'est un monsieur qui, aujourd'hui, fait feu de tout bois, question critique, parce qu'il est critiqué dans son camp. Et aujourd'hui, il est visé, je ne sais pas très bien pourquoi, par monsieur Maduro. Alors que, honnêtement, pour connaître ce monsieur, je l'ai rencontré plusieurs fois, notamment à Paris. Il a fait une tournée, il a rencontré le président Macron. Et c'était, je crois, en avril ou en mai, juin dernier. Et puis, il était au Parlement européen. C'est un homme qui est très actif pour faire entendre la voix de l'opposition à l'étranger, essayer de trouver une solution de sortie pour ce pays qui, on va en parler, est pour le moment au fond du trou.
Et ce jeune député de 29 ans, les députés vénézuéliens ne disposent pas d'une immunité parlementaire, ils ne sont pas protégés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions?
De toute manière, le Parlement, aujourd'hui, l'Assemblée nationale au Venezuela n'existe plus. Elle n'a pas été dissoute, mais elle a été contournée par cette Assemblée constituante qui a été créée de toutes pièces en juillet et qui a été mise en place en août dernier 2017. Et qui, aujourd'hui, est aux mains du Parti Socialiste Uni du Venezuela, c'est-à-dire à 95%, quasiment. Il y a très peu, c'est pas du tout une assemblée, mais c'est un système qui permet à des travailleurs, qui représentent en fait les différents secteurs d'activité vénézuéliens. Donc vous avez des ouvriers, vous avez un peu tout le monde, et on sait très bien que cette constituante est totalement acquise à la cause de M. Maduro.
Donc elle n'est pas, elle reflète pas cette assemblée ou sa composition, les résultats des dernières élections où le parti de Nicolas Maduro avait remporté 17 régions sur 23.
Alors les élections présidentielles dernières n'ont pas été reconnues par la communauté internationale. Il faut savoir que, en gros, M. Maduro, il y a eu des sondages réalisés, alors qui sont évidemment à prendre avec une certaine prudence, puisque ce sont des sondages qui sont réalisés par des médias d'opposition, le peu qu'il en reste, ou par des instituts de sondage qui ne sont pas reconnus par les autorités vénézuéliennes. Mais en gros, les derniers, c'était 85% des Vénézuéliens n'appréciaient pas la politique de M. Maduro. En gros, il a 85% des Vénézuéliens qui sont contre lui. Et il se présente en mai dernier dans un scrutin qui a été boycotté par l'ensemble de l'opposition, mis à part un dissident, M. Falcon, mais qui n'était pas du tout reconnu par la table démocratique, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et M. Maduro donc a non seulement eu un boulevard pour être réélu facilement, puisque les opposants, les électeurs d'opposition ne se sont pas rendus aux urnes. Il y a eu 55% d'abstention selon les chiffres officiels. L'opposition, elle parlait de 80%, ce qui en gros représente le nombre de gens qui n'apprécient pas M. Maduro. Voilà, il a été élu à 67%. 5%, alors qu'on sait très bien que actuellement Nicolas Maduro a un gros souci de popularité dans son pays. Et s'il a un ennemi, c'est un ennemi de l'intérieur avant d'avoir des ennemis de l'extérieur.
Alors on reste à l'intérieur pour l'instant. Ce drone qui explose en pleine parade militaire à Caracas samedi dernier, d'après vous, mise en scène, bon, je sais qu'une enquête est sans doute en cours, mais en tout cas, il n'y a pas de conclusion définitive, mais mise en scène ou pas mise en scène, qu'est-ce qu'on sait pour l'instant avec certitude sur ce que Nicolas Maduro appelle tentative d'attentat et que l'opposition appelle farce?
Bah, difficile d'y voir clair.
Il n'y a rien de certain là.
Non, surtout que l'enquête, elle est réalisée par les autorités dont on peut quand même parfois un peu douter aussi de la crédibilité. Sachant que la justice aujourd'hui est complètement aux ordres de Monsieur Maduro, il a nommé il y a un an, justement par le biais de la constituante, une personnalité qui a remplacé une ancienne procureure générale qui aujourd'hui vit en exil en Colombie, à Bogota, que j'ai rencontré.
Vous avez rencontré il y a très peu de temps là.
Luisa Ortega Díaz, je l'ai rencontré il y a 15 jours, dans son bureau de Bogota. Elle vit cachée, elle vit sous menace de mort. Cette femme avait été nommée à l'époque d'Hugo Chavez en 2007. C'était une chaviste de la première heure. Elle avait participé à la campagne d'Hugo Chavez en 1998. Son mari était député Parti Socialiste Uni du Venezuela, donc le parti de Monsieur Maduro. Donc c'était des chavistes. Sauf que cette dame, à un moment, s'est retournée contre le pouvoir à partir de 2016-2017 en estimant que les autorités, en tous les cas le régime de M. Maduro était un régime, un narco-État, donc elle a fait de grosses enquêtes, il y a eu de grosses enquêtes de réaliser qui n'ont pas du tout plu, évidemment, autour de l'exécutif, et puis elle a accusé le régime Maduro d'être en lien avec les cartels de la drogue colombiens, etc., plus, évidemment, les violations des droits de l'homme.
Alors, l'alliance d'opposition Frente Amplio a, par exemple, dans un communiqué, dit craindre que cette attaque soit un prétexte pour justifier la répression. Une attaque qui permettrait à Maduro de se replacer en victime. C'est un peu simple comme interprétation, vous y croyez?
Non, c'est ce qu'on est en train de voir. Justement, dès hier, le président Maduro a fait une allocution télévisée pour cibler certains leaders d'opposition en les accusant d'être derrière cet attentat dont on attend toujours les vraies images, parce que pour l'instant, on a vu quelques militaires fuir un rassemblement, un défilé. On a vu un pétard mouillé exploser au-dessus des tribunes. Excusez-moi, mais c'est un peu ridicule, effectivement. Donc, on attend des images. Il faut quand même imaginer que le Venezuela, c'est un pays moderne, à la base. C'est un pays où les gens ont des iPhones, ont des smartphones. Tout le monde filme en permanence. D'ailleurs, les Vénézuéliens sont très friands de vidéos amateurs. Or, il y a très peu de vidéos amateurs, c'est un peu étonnant. Alors, il y a sans doute une censure, mais on imagine que certaines personnes auraient pu prendre des images un peu plus réalistes des événements. Or, on n'a que des images finalement qui ont été diffusées à travers, en tous les cas, par les autorités. Donc, il faut rester encore très prudent, même si tout est possible. Oui, il est possible que un petit groupuscule d'opposants un peu extrémistes,
le mouvement national des soldats en chemise, qui a revendiqué l'action. Non, vous ne le connaissez pas.
Non, personne ne le connaît, puis personne ne l'a jamais connu, mais rien que le nom est un peu ridicule, un peu absurde. En plus, les Vénézuéliens ont un peu d'humour parfois, faut l'avouer. Ils ont des journaux qui sont parfois assez drôles, qui s'appellent Patilla.
Donc c'est peut-être parodique, ce mouvement des...
Je ne sais pas. En tous les cas, bon, voilà, il y a peut-être eu une attaque, il ne faut pas nier cela. Il a beaucoup d'ennemis dans son pays, je l'ai dit tout à l'heure, donc des gens, effectivement, veulent le voir tomber, comme ils n'arrivent pas à se faire entendre. L'opposition n'arrive pas à se faire entendre par la voie démocratique, puisqu'on sait, on a compris que toutes les élections aujourd'hui étaient biaisées. Eh bien, il est clair qu'actuellement, peut-être certains vont tenter une voie plus violente.
Alors, au départ, Nicolas Maduro avait privilégié l'hypothèse d'un complot ourdi par la Colombie, soutenu par les États-Unis. On y reviendra tout à l'heure. Pour l'instant, il se concentre sur ses opposants et il reste les opposants à l'intérieur du pays et ceux qui sont en exil. Nicolas Maduro, quelques mots quand même pour refaire le portrait de cet homme dont le parcours est intéressant à rappeler depuis sa naissance au 62 dans un quartier ouvrier de Caracas que vous devez bien connaître.
Ouais, alors Nicolas Maduro, moi je l'ai connu, donc j'étais correspondant France 24 RFI de 2008 à 2012, puis je suis retourné depuis plusieurs fois. La dernière fois, c'était en janvier 2017. Aujourd'hui, je ne peux pas y retourner.
Parce que
Bah parce que je n'ai pas les autorisations pour y travailler. On ne me donne pas les autorisations pour y travailler, ce qui veut dire que si je me pointe comme journaliste, on peut m'arrêter à l'aéroport, tout simplement.
Parce que vous avez trop fréquenté les opposants ou pour d'autres raisons?
Non, parce que j'ai fait mon travail de journaliste. Donc un journaliste est là pour raconter ce qu'il voit et pas raconter ce qu'on voudrait qu'il voit. Ce que comprennent parfois pas certains auditeurs ou certains téléspectateurs. Les gens se font des idées depuis leur canapé derrière leur télé ou leur ordinateur sur des pays qui sont très lointains et ils n'acceptent pas les réalités que certains essayent de faire, d'expliquer avec sincérité. Moi, je travaille pas pour la CIA, je suis pas un journaliste engraissé par qui que ce soit, je suis un pigiste indépendant, je travaille pour des médias de service public, notamment parfois pour Radio France. Voilà, je fais mon travail d'indépendant.
Et donc Nicolas Maduro, vous l'avez rencontré sans préconçu, quand ça ?
À l'époque, je l'ai rencontré quand il était encore, il a été le bras droit de Chavez, il a été son ministre des Affaires étrangères, après il a été vice-président sur la fin. C'était un monsieur très courtois, très discret à la base. Autrefois, on le croisait beaucoup à la fin des allocutions, des longues allocutions télévisées de Chavez, vous savez, ces fameuses cadenas, où Chavez pouvait parler des heures durant aux Vénézuéliens sans être une seule fois arrêté, et toutes les chaînes devaient diffuser en même temps ce long monologue. Maduro tente de faire d'ailleurs aujourd'hui la même chose, mais il n'a pas le même talent d'orateur que Hugo Chavez. Donc Nicolas Maduro, c'était une espèce de chat très tranquille. On voyait bien qu'il aurait pu donner des coups de griffe, mais il était plutôt sympathique. Il allait vers les journalistes et en gros, il débriefait les allocutions de Chavez. Donc c'était...
Donc c'était son dauphin, il était naturellement désigné à la mort de Chavez.
Une relation particulière entre... on voyait bien qu'il y avait une amitié, une confiance. Parce que Chavez était aussi, sur la fin de son mandat, extrêmement paranoïaque. Il avait extrêmement peur d'être assassiné. Et d'ailleurs, certains ont dit qu'il avait été assassiné, empoisonné, que son cancer... Bon, ça c'est encore un nouveau mythe, mais il était vraiment dans cette crainte-là. Donc Maduro, c'était son bras droit et son homme de confiance.
Et alors, qu'a-t-il conservé de chaviste, entre guillemets? N'a-t-il pas dilapidé l'héritage? Est-ce qu'on le lui reproche aujourd'hui? Le Venezuela traverse une crise économique grave. Dans quel état l'a-t-il trouvé, lui, à la mort de Chavez en 2013?
Ça allait déjà très mal, en fait. C'est là où il ne faut pas non plus tomber dans le panneau. D'abord, il a hérité du militarisme. Là, c'est clair, c'est Hugo Chavez. Il n'était pas militaire pour rien, le commandante. Donc, Hugo Chavez, à partir du moment où il y a eu le coup d'État de 2002, a extrêmement contre lui, a extrêmement militarisé le régime, acheté des armes aux Russes, à bon prix d'ailleurs, parce que les Russes participent quand même à la militarisation du régime vénézuélien. Ils soutiennent d'ailleurs Nicolas Maduro. Il a évidemment créé des milices. Alors, ça me fait souvent un peu... doucement sourire, parce qu'on a beaucoup parlé de l'affaire Benalla tout l'été. Or, il faut comprendre qu'au Venezuela, c'est pas un Benalla, c'est des centaines de Benalla. C'est des centaines de gens qui travaillent pour l'État directement, pour l'actuel, pour l'exécutif, et qui sont lâchés dans la nature pour faire le sale boulot. Et je pense que leurs méthodes sont bien pires que celles qu'on a vues, même si je les condamne, celles qu'on a vues de Monsieur Benalla. Mais en tous les cas, voilà, c'est un régime qui fonctionne que comme ça, que par la violence, que par la peur, aujourd'hui. Et donc, quand vous avez des manifestations de jeunes opposants, des leaders, aujourd'hui, il faut comprendre que les opposants qu'on voit dans la rue et qui ont été sévèrement réprimés, notamment lors des manifestations de mai-juin, c'était des jeunes qui, aujourd'hui, pourraient très bien se retrouver, d'ailleurs, à manifester contre des lois de Monsieur Macron. Faut bien comprendre qu'on n'est pas dans une droite-gauche, on est face à un régime autoritaire, fascisant, selon l'opposition.
Donc, dans un contexte, dites-vous, de crise économique grave, comment on en est arrivé là? On ne peut pas dire qu'il n'y a plus de pétrole
alors,
au Venezuela.
Ensuite, au niveau économique, le problème, c'est que Chavez, lui non plus, n'a pas réussi à sortir de cette dépendance au pétrole. L'économie n'a pas été diversifiée. Il y a eu des tentatives un peu avorté, notamment de créer des coopératives, mais il n'y avait pas la volonté derrière, les gens n'étaient pas motivés. Les Vénézuéliens ont été habitués quand même, c'est un pays de rente, donc les Vénézuéliens ont été habitués à tendre la main pratiquement et à obtenir. Et d'ailleurs, ils se le reprochent à eux-mêmes. C'est pas un mythe, et c'est pas une critique ou une vision, c'est une réalité. Donc ce sont des gens qui ont des facilités, c'est un pays où il y a tout, je le rappelle, de l'or, du pétrole, de l'uranium. Il pleut, il y a du soleil, donc vous pouvez avoir la végétation que vous voulez. Donc il y a des grandes plaines, un peu comme en Argentine, comme la Pampa, qui s'appelle Llano, extraordinaires, qui ont été pendant très longtemps la richesse du pays. On pouvait nourrir tout le monde. Il y avait du bétail, il y avait des légumes, il y avait tout ce qu'on voulait. Or, aujourd'hui, on ne produit plus rien au niveau agricole. On achète tout, notamment aux Uruguayens et aux Argentins. Donc c'est un pays totalement par terre en termes économiques et qui est obligé d'importer, mais qui n'a pas les moyens d'importer. Sa monnaie est très basse, etc. Donc c'est un pays qui est étranglé économiquement, et les Vénézuéliens sont les premiers à en subir les conséquences.
Notamment parce que la vie est devenue extrêmement chère. On s'attend pour la fin de l'année à une inflation de 1 000 000 % on l'évoquait dans une émission il n'y a pas très longtemps à cette même antenne. C'est même pas possible d'imaginer ce que ça veut dire, en fait, une inflation de 1 000 000 %. Oui. Et les Vénézuéliens quittent leur pays en masse, et c'est avec vous, c'est avec eux surtout que vous avez travaillé
récemment,
ces derniers temps.
En fait, j'y suis allé deux fois. Je suis allé en mai, juste au moment des élections présidentielles, c'était le 20 mai dernier. Donc je suis allé en mai et j'y suis retourné là récemment parce que il y avait cette fois-ci des ONG qui étaient arrivées, alors qu'au début, il n'y avait absolument pas d'aide humanitaire.
Vous voulez dire en Colombie, par exemple ?
En Colombie. Mmh. Maintenant, vous avez les casques blancs argentins, vous avez aussi une ONG norvégienne, et vous avez la Croix-Rouge colombienne sur place. Donc on compte environ 800 000 personnes qui sont passées par le pont de Cúcuta. C'est le pont qui départage les deux pays, la Colombie et le Venezuela. Et quand j'y suis allé les deux fois, c'était un flux continu de migrants, de réfugiés qui partaient. Et ce qui était le plus étonnant, c'est que certains portaient encore le t-shirt rouge de la Révolution. Ce sont des gens qui viennent des bidonvilles, des barrios, comme on les appelle, pauvres, extrêmement pauvres. Ce sont les anciens électeurs de Chavez, qui fuient le pays, pas par plaisir, parce que les Vénézuéliens adorent leur pays. Ce sont des gens extrêmement nationalistes, chauvins, et c'est vrai qu'ils ont un beau pays avec des belles plages, etc. C'est un pays où on vivait bien au Venezuela, avec quand même des disparités sociales scandaleuses, mais qui ont perduré, en fait, parce qu'on est toujours pauvre au Venezuela. On est encore plus pauvre qu'il y a 20 ans, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, je les ai rencontrés à la frontière, et il est vrai que c'est des gens qui sont en malnutrition, qui n'ont plus d'argent pour se soigner, qui n'ont plus rien. Donc, ils vont tenter leur vie ailleurs, et notamment, ils vont étrangement et paradoxalement dans les pays libéraux, en fait. Ce sont ceux qui leur ouvrent leurs portes.
Qu'est-ce que vous appelez libéraux? C'est pas démocratie libérale.
La Colombie, le Pérou, ce sont deux pays qui ont des gouvernants plutôt d'obédience libérale. Et ce sont des pays...
Libéral économiquement, vous voulez dire. On ne parle pas de démocratie libérale, parce qu'on reviendra dans une deuxième partie.
Voilà, économiquement. Et ce sont des pays qui vont plutôt bien en termes économiques, contrairement à la tentative de socialisme du 21e siècle qui a complètement capoté au Venezuela.
Ce pont de Cúcuta auprès duquel vous êtes allé... En Colombie, il a été traversé tellement de fois par des Vénézuéliens qui, il y a quelques années encore, venaient y faire leurs courses parce qu'ils étaient un peu les rois du pétrole là-bas. Les monnaies n'avaient rien à voir. Oui. Et aujourd'hui, ils viennent pour fuir.
Pour fuir.
L'essence, on voyait à une époque beaucoup de Vénézuéliens dans les pompes à essence colombiennes.
Non, c'est plutôt le contraire, en fait. C'est plutôt les Colombiens qui venaient au Venezuela parce que l'essence n'était pas chère.
Alors, c'est ça, pour le trafic de cocaïne,
c'est ça
notamment.
Qui est très important à resituer, c'est que les Colombiens ont été les migrants du Venezuela pendant très longtemps, et ils ont été habitués au Venezuela à recevoir des Colombiens. D'ailleurs, Maduro a des origines colombiennes. On lui reproche parfois même, etc. Donc, il y a cette réalité-là, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Ce sont les Vénézuéliens qui fuient vers la Colombie. Parfois, ils restent la journée, ils repartent le soir avec des vivres, mais les trois quarts restent. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de prostitution, de jeunes filles vénézuéliennes qui se prostituent dans les alentours du pont.
Et je crois que Clara Lecoq-Réal va y revenir dans un instant dans son journal. Vous restez avec nous, François-Xavier Freland. Nous aurons encore, après le journal, jusqu'à 8h30 pour évoquer la diplomatie à deux vitesses des États-Unis et des pays occidentaux, France comprise, avec les pays d'Amérique latine, dont le Venezuela. Restez avec nous.